Chapitre 8. Sur l'invitation de Madame de Champdoiseau, Madame Belvidéra était montée chez Solveig. La jeune fille était étendue sur une chaise longue, près de la fenêtre entr'ouverte, et sa petite tête, fine et jolie, dans ses frissons d'or, était appuyée sur sa main. Elle la releva vivement dès qu'elle eut reconnu les joies de l'italienne, et se dressa sur sa chaise. « Vous, madame ? » dit-elle. Elle était aussi étonnée de la démarche de Madame Belvidéra que celle-ci même était émue de l'accomplir. Malgré toute la sympathie que Solveig lui avait inspirée dès le premier jour, Louisa se donnait vis-à-vis d'elle sur une réserve que nécessitait la malheureuse circonstance de la grotte. Ah ! Combien de fois n'avait-elle pas eu l'envie de lui sauter au cou, de l'embrasser de tout son cœur à cause de ce qu'elle sentait de douleur intime dans cette tendre petite âme, blessée, elle le voyait bien d'une manière terrible, et condamnée au silence, au reploiement sur soi-même, par la vulgarité de son entourage et presque au désespoir par son amour secret. Toute sa tendresse pour Solveig était mêlée de pitié. Elle savait que Gabriel ne l'aimait pas. Si elle avait eu la moindre raison d'être jalouse, elle l'aurait détestée, sans doute. Mais elle avait le beau rôle. C'est pourquoi elle s'était accoutumée à tant s'attendrir sur elle. Cependant, Solveig, elle ne devait-elle pas la haïr? C'est à peine si Madame Belvidéra osait l'approcher. Elle n'avait jamais échangé que des paroles de politesse. Mais elle avait un grand plaisir à sentir entre elle et la jeune fille le lien innocent de la petite Louisa. Il lui semblait que la petite Louisa lui versait de sa tendresse et que par la petite Louisa, elle recevait d'elle un peu d'amitié. Enfin, que de choses muettes et tendues entre ces deux femmes. Pourquoi Madame de Champdoiseau avait-elle prié Louisa d'aller voir Solveig ce matin ? Il est probable que Solveig avait demandé des nouvelles de sa rivale, ce qui était une façon d'avoir de celle de Gabriel, et que le nom de Madame Belvidéra, revenant à la mémoire de Madame de Champdoiseau, elle avait pensé que sa sœurette aurait plaisir à la voir. Louisa ne pouvait plus s'arrêter en chemin, et d'ailleurs elle éprouvait à voir Solveig seule une bonne fois et en cette franchise que donne la maladie, une attraction qui l'emportait. Elle fut un peu décontenancée par la surprise que Solveig témoigna à la voir. Son « vous, madame » la glaçait. Mais elle remarqua dans les yeux de la jeune fille toute une tempête soudaine, un bouleversement. Solveig, en l'apercevant, avait reçu comme un petit coup de bâton à la nuque. Et elle avait senti sa cervelle trembler. Quelque chose lui était passé par tout le corps. Elle avait eu le temps de 2 secondes, comme une tête sur les yeux, et puis elle s'était redit en disant « Voyons, voyons. » Pauvre petite, c'était encore une de ces épreuves qu'elle s'apprêtait à renfoncer, après combien d'autres au-dedans d'elle-même, dans ce coffret fermé du cœur des jeunes filles qui n'ont ni mère ni confidente. Louisa s'arrêta un instant. Solveig dut voir dans ses yeux pourtant ce qu'elle avait de bonté, et elle se fit accueillante. « Oh, comme vous êtes aimable, dit-elle, de venir vous informer de moi. » Madame Belvidéra lui demanda comment elle se trouvait. « Oh, j'ai une grande faiblesse. Je ne suis pas plus forte qu'un poulet, mais je ne souffre plus comme cette nuit. » « Mais qu'aviez-vous donc ? Oh, j'étais comme si on m'avait battu, roué de coups. Ça ne m'est jamais arrivé d'être battu et roué de coups, ni à vous, madame, n'est-ce pas ? » ajouta-t-elle en souriant. « Mais on se figure quelquefois ce que ça doit être. » Louisa n'osait lui demander ce qui s'était passé, ce qui avait pu lui causer cela. Solveig dit d'elle-même, « Moi, je pense que c'est l'orage. » « Je suis un peu nerveuse. Oh, c'est certainement l'orage. » Et qu'a dit le médecin ? « Oh, le médecin ! » !»« Quoi, petite sceptique, vous ne croyez pas au médecin ? » Je ne suis pas sceptique, dit-elle, et la preuve, c'est que je suis de l'avis de mon frère le peintre, qui ne croit qu'au devin. Au devin. Ah, vous voyez bien, c'est vous qui êtes sceptique et non pas moi. Oui, mon frère, qui ne croit qu'aux grâces innées, aux talents spontanés, croit qu'il y a un certain nombre d'hommes qui ont reçu du ciel le don particulier de voir clairement nos maux et leurs causes profondes. Ce serait une science qui ne s'apprendrait point. Ceux qui la possèdent seraient les héritiers des devins des comtes. Ils se trouveraient par hasard de ces devins-là parmi les médecins, comme il y en a ailleurs, ce qui fait que tous les médecins ne sont pas mauvais. Encore arrive-t-il que ceux qui savent ce que vous avez ne sont pas toujours capables d'y trouver remède. Et avez-vous vu l'un de ces devins? Non. Et pourquoi y croyez-vous? Parce que je connais des gens qui en ont vu. On dit que ce sont des hommes qui aiment ardemment leurs semblables. Toute leur vertu viendrait de cet amour. L'amour rend aveugle. Oui, en ce sens qu'il vous rend agréable jusqu'au défaut, c'est-à-dire qu'il supprime la distinction entre les vices et les qualités, ce qui, en vous enlevant toute répugnance, vous permet d'être bien plus attentif aux mille petits ressorts mystérieux des hommes. Il paraît que ce qu'on appelle les prévenances, qui n'ont lieu qu'entre les gens qui s'aiment, ne sont autre chose que des tas de petites divinations de ce genre. Mon frère prétend que sans cet amour, les hommes ne sont rien qui vaille, pas plus en art qu'en science. Les savants, les grands inventeurs comme les artistes, ce sont des devins qui, à force d'aimer la nature et les hommes, finissent par surprendre leurs secrets. Mademoiselle Solveig, si les devins sont des gens qui vous aiment beaucoup, je suis sûr maintenant que vous avez rencontré de ces devins. Oh, dit-elle avec un sourire amer, en tout cas, ils ne l'étaient pas pour moi, puisque personne ne m'a jamais aimé. Personne? Non. Maman est morte en me mettant au monde. J'ai été élevé par une grand-mère qui avait une peur affreuse de ma sœur que vous connaissez et qui nous préférait à toutes les deux notre frère. On faisait pas attention à moi. Mais votre frère, qui est un grand esprit, à ce que tout le monde dit. Mon frère m'aime bien, mais il n'aime que sa peinture. Et puis, ajouta-t-elle, on n'a que ce qu'on mérite et je ne suis pas si intéressante. Oh non, je vous demande bien pardon, par exemple. Et je sais, pour ma part, quelqu'un qui s'intéresse à vous. Ah ? Fit-elle avec surprise et tout d'un coup suspendue aux lèvres de Louisa, comme si elle attendait une nouvelle inespérée. Oh ! Fit l'Italienne, il ne s'agit que de moi. Solveig dissimula vite la petite déception qu'elle éprouvait. Quelle jeunesse et quel candide amour! Elle avait espéré un instant que la maîtresse de Gabriel pût, elle, venir dire « Il s'intéresse à vous !» Quelle gracieuse folie! Madame Belvidéra comprit son mouvement et en fut touchée. Mais Solveig avait repris immédiatement la distance qu'il y avait entre elle et la jeune femme. « Vous ?» dit-elle avec un léger accent de doute qu'elle s'efforçait d'adoucir. C'était au tour de Louisa d'avoir la grande émotion et de trembler et d'être embarrassée. Elle n'avait pas réfléchi d'avance à la façon dont les choses tourneraient. Elle sentit alors qu'étant donné les circonstances et les dispositions où elle était vis-à-vis de cette petite, il fallait en venir à une effusion complète, et que cela n'était possible qu'en faisant allusion à la terrible aventure, qu'en s'accusant, s'humiliant devant elle, en lui demandant pardon du tableau dont elle avait offusqué ses yeux de jeune fille. Ah, ce n'est rien de se confesser à un prêtre, ce n'est rien du tout. Mais de faire seulement allusion devant une enfant à la chose qu'elle connaît et qu'elle a vue. Et pourtant, c'était depuis longtemps pour elle un désir secret, un désir immense, insurmontable. Elle savait qu'elle le satisferait un jour. Quand et comment, elle ne l'avait même pas cherché. Mais elle savait bien que cela viendrait et qu'elle se débarrasserait de ce poids-là. Elle hésitait, elle ne bougeait pas. Solveig vit bien son trouble, mais elle devait avoir de la peine à le croire sincère. Elle ne savait que dire « Vous ?»« Vous ?» répéta-t-elle. Madame Belvidéra s'approcha d'elle et mit un genou sur un petit tabouret près de la chaise longue. « Oh, mademoiselle, vous avez toutes les raisons d'être étonnée, et vous en avez même de me trouver impudente à venir ainsi vous affirmer une amitié que vous dédaignez peut-être. »« Mais non, madame, » dit Solveig avec politesse, « je vous assure. Oh, laissez-moi vous parler, je vous en prie. Je n'ai jamais pu le faire jusqu'à présent. Je n'ai jamais osé après ce qui s'est passé et après ce que vous savez. » Mais j'en mourrais d'envie. Je vous ai aimé tout de suite. Je vous ai aimé pour vous, pour votre personne qui me plaisait, pour ce besoin d'affection dont votre jolie nature semblait privée, pour la tendresse que vous avez témoignée à ma fille, pour le silence forcé qu'il y avait entre nous, enfin, pour le trouble, pour le scandale que j'ai pu causer à vos yeux, à votre jeunesse, à votre cœur, mademoiselle. Et elle pleurait. Il lui semblait que les mots qu'elle prononçait lui étaient arrachés avec des tenailles, et cela lui causait une douleur affreuse, en même temps qu'un soulagement inouï. Solveig lui avait tendu les mains. Elle les lui embrassait. Mais sentez-vous combien j'avais envie que vous me pardonniez ce qu'un hasard m'avait fait commettre contre vous? Contre vous, oui, certes, ne dites pas non. Je sais trop bien comment le cœur se développe et grandit, et en une seconde, j'ai peut-être ajouté ce jour-là 10 années aux vôtres. Solveig était un peu interdite, mais les derniers mots la frappèrent particulièrement. 10 années ? Prononça-t-elle à mi-demi-voix. Et Madame Belvidéra vit dans la grande et profonde douleur du regard de la pauvre enfant, qu'il était vrai, hélas, qu'elle avait vieilli dans cette proportion. En effet, ce que les jeunes filles imaginent n'est rien en comparaison de la réalité, et la beauté, la sincérité, l'élan de l'amour de Gabriel et de Louisa, de ce baiser interrompu sous la grotte, lui avait été une secousse extraordinaire. Quelle révélation, quel exemple et quel attrait! Dès ce moment-là, probablement, la figure du jeune homme avait fait sur elle une impression définitive. Il était si beau, si épris et si charmant. C'est sous ses traits que l'amour apparaissait à cet enfant. La tendresse éperdue dont le bras de Gabriel enlaçait Louisa, et la folie de toute l'attitude de la belle italienne suspendue à ses lèvres. Que l'on songe à cette impression toute de grâce, d'élégance, d'enchantement sur une jeune fille ardente et délicate, et de tout danse frais de caresses. Dira-t-on que c'est précisément parce qu'elle était témoin de l'amour du jeune homme pour une femme qu'elle ne pouvait pas concevoir d'amour pour lui? Mais elle avait appris tout de suite que Gabriel n'enlaçait sous cette grotte que sa maîtresse. Et Solveig était une petite bourgeoise qui savait très bien que les hommes comme celui-ci font bon marché de leurs liaisons irrégulières, et que finalement, le beau rôle est à celle qu'ils épousent. Et pourquoi n'aurait-elle pas pensé pouvoir un jour être dans ses bras? Et puis, est-ce qu'on réfléchit à tout cela? Est-ce qu'on pense? Il était l'homme qu'elle devait aimer, et elle l'aimait. « Mademoiselle, » dit Louisa en prenant les mains de Solveig, « je n'ai pas besoin d'effacer de votre esprit ce qu'une aussi malheureuse circonstance y aggravait. Je ne vous demande ni votre pardon, ni même votre indulgence. Considérez-moi comme une femme très coupable. Je vous supplie seulement de ne vous souvenir que de la misère à laquelle ce que j'ai fait m'a réduite, là, telle que vous me voyez à vos pieds. Puisque l'expérience s'est offerte à vous, et que vos yeux sont assez clairvoyants pour avoir deviné ce qu'a engendré de tristesse le moment d'heureuse apparence dont vous avez été témoin, ne conservez que de la compassion pour de pareils désordres. Ils sont les plus pitoyables de tous les maux, car ceux qui en souffrent n'ont pas le ressort de les maudire et de les secouer avec dégoût, mais s'enchaînent eux-mêmes à leur instrument de torture et l'adorent. Ces derniers mots la touchèrent plus que toute l'humiliation qu'elle comprenait mal. Mais là, Madame Belvidéra effleurait la question brûlante pour la jeune fille, la persistance de son amour. Solveig ne disait rien, mais ses paupières battaient et on voyait poindre ses larmes. C'était bien en pure perte que Louisa s'efforçait de lui inspirer de la répugnance pour sa conduite. Ce que Solveig maudissait, c'était Louisa, mais parce que Louisa occupait la place que Solveig eût voulu tenir. Quand Louisa lui parlait de ses souffrances, la pauvre petite brillait d'envie de les endurer, car elle lui semblait douce au prix des siennes. Madame Belvidéra n'avait pas pour but de l'attendrir sur son compte. Elle la savait trop éprise pour penser un seul instant qu'elle pût l'envisager, malgré tout l'étalage de ses infortunes, autrement que comme une rivale heureuse. Elle s'était seulement exécutée. Elle avait fait ce qu'elle croyait nécessaire. Son amende honorable lui semblait suffisante. Elle était même un peu blessée dans son amour-propre, à voir Solveig indifférente à une démarche dont elle pouvait ne pas sentir toute l'importance, mais qui avait été de toute évidence très dure à remplir. Mais au moins, elle avait espéré que la jeune fille lui en serait gré et lui permettrait, à la suite de cela, de l'entendre, elle, à son tour, et de tenter de la soulager. Elle espérait faire accepter l'amitié qu'elle proposait de si grand cœur, et que tout en restant muette sur le sujet qui les unissait en les séparant, Solveig semblerait lui dire, dans un baiser et avec quelques larmes, « Je comprends, allez, que vous l'aimiez, puisque c'est lui. » « Solveig, dit Madame Belvidéra, la meilleure raison que j'ai de vous aimer, c'est que je sens que vous n'êtes pas heureuse. » La figure de Solveig avait de petits tressaillements nerveux. Ses yeux clignotaient et rougissaient, mais elle fit un effort et prit un air étonné. « Pas heureuse, oh mais si, madame, je vous assure que je suis très heureuse. » Louisa la regarda en souriant de ce mouvement d'amour-propre. Mais elle ne se dérida pas. « Avec un cœur comme le vôtre, mademoiselle, est-ce qu'il est possible d'être heureuse ?» Solveig tenait à la main un petit mouchoir dont elle serrait un des coins entre ses dents en tirant dessus. Elle contraignait avec peine les sanglots qui lui montaient à la gorge. Louisa vit qu'elle comprenait le bonheur qu'il y aurait pour elle à se confier. Et Solveig était touchée de l'accent très sincère que l'Italienne mettait à la provoquer, de sa réelle bonté, enfin de la nouveauté qu'il y avait pour elle à trouver quelqu'un qui soupçonna ses trésors cachés de tendresse. Cette jeune femme était peut-être le seul être au monde qui lui eût donné cette émotion, qui l'eût amenée jusqu'au bord de l'épanchement, cette grande et incomparable volupté de l'adolescence. Mais il fallait que cet être-là fût la femme qu'elle avait vue dans les bras de Gabriel. Par conséquent, le seul être au monde qui lui fut impossible, radicalement impossible d'aimer. Elle se débattait, elle était aux abois. Louisa crut un moment qu'elle allait s'abandonner, que toute son énergie se romprait. Solveig étouffait, mais pas une larme n'avait encore mouillé sa paupière. Cette lutte acharnée contre elle-même découvrait assez la haine sourde qu'elle vouait à la maîtresse de Dom Pierre. Elle ne voulait même pas pleurer devant elle. Celle-ci finissait par manquer de générosité et commençait à avoir une espèce de plaisir à la voir souffrir si cruellement à cause de Gabriel. Elle prenait la posture inhumaine du vainqueur. Ah, elle s'était humiliée en vain. Elle était tombée à genoux aux pieds de cette petite. Elle avait fait plus pour elle, plus violent effort sur soi-même qu'elle eût accompli de sa vie. Et l'autre l'avait laissée par terre. Elle avait semblé trouver qu'elle était bien là, qu'elle ne valait pas mieux. Enfin, elle n'avait pas eu un mouvement de pitié, sinon pour son rôle d'amoureuse, au moins pour son émoi présent, pour les égards qu'elle avait vis-à-vis d'une délicatesse de jeune fille. Mais non, pardieu! Louisa était aimée de l'homme que Solveig aimait. Oh, tant pis, on allait bien voir. Vous êtes heureuse? Fit Louisa avec insistance. Solveig ne pouvait plus parler. Il était visible qu'elle n'articulerait pas un mot sans que tout débordât. Elle fit un effort extraordinaire en se redressant sur la chaise et mordant son mouchoir. Oui, dit-elle, très heureuse. Mais c'était tout ce qu'elle pouvait. Les digues cédèrent, un flot de larmes jaillit. Elle fut secouée pendant plusieurs minutes d'une succession de sanglots ininterrompus. Madame Belvidéra ne désirait pas autre chose. Elle la croyait rendue. Après cela, l'animosité de Solveig devait tomber, et Louisa goûterait la double satisfaction de voir s'entrouvrir ce cœur et de le dorloter, de le soigner. C'était à la fois pour elle une petite vengeance de femme et un goût très franc de faire du bien à cet enfant. Dès qu'il y eut un peu de répit, Louisa s'approcha d'elle et, sans dire mot, sans trop réfléchir à ce qu'elle faisait, mais de cet élan instinctif qui vous porte à caresser les enfants qui pleurent, elle fit un mouvement pour l'embrasser. Non, non, dit Solveig avec une fermeté qui épouvanta la jeune femme. Non, madame, c'est pas possible. Si madame Belvidéra espérait un aveu de sa part, elle n'en attendait certainement pas d'aussi net. C'était clair. Il n'y avait pas de façon plus tranchante de se poser en rival. Aucune autre raison ne pouvait plus l'empêcher d'accepter son baiser. Après ce que Louisa venait de faire, dans toute autre situation, eût-elle été une fille, qu'elle eût mérité qu'on l'embrassât. Mais Solveig avait si solidement pris son parti qu'elle le proclamait crûment, au milieu même de la plus complète défaillance physique. Dès la première occasion, Louisa raconta à son amant la scène qui s'était passée entre elle et Solveig. C'était le soir à Menaggio, pendant que Monsieur Belvidéra était allé commander une barque pour la traversée. Dompierre avait laissé parler Madame Belvidéra sans l'interrompre. Mais il froissait et mordait sa moustache, et une de ses jambes, croisée sur l'autre, s'agitait avec un mouvement d'impatience et de colère. Quand la jeune femme s'arrêta et le regarda longuement, en semblant implorer son opinion sur ce qu'elle venait de lui raconter, il lui dit froidement: « Mais il faut que vous soyez folle pour avoir fait cela. »« Ah, oh, mon cher, dit-elle, laissez-moi. Non, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Je l'ai fait malgré moi, je ne pouvais pas l'éviter. Oh! Allez vous mettre à genoux, vous humilier devant une enfant, sous le prétexte qu'un hasard, que sa propre curiosité, après tout, ont fait qu'elle vous a vu suspendu à mon cou. Mais l'attitude que vous avez prise vis-à-vis d'elle me révolte, vraiment, je ne vous comprends pas. Je suis heureuse de faire ce que j'ai fait. Je ne pouvais plus continuer de vivre à côté de cette jeune fille dans les conditions où je me trouvais. Nous sommes plus rapprochés chaque jour. À Stresa, je l'évitais encore, mais ici, je ne pense pas que ce rapprochement soit de longue durée, car il faut vous avertir que votre mari a une raison de ne pas resserrer son intimité avec la famille des champs d'oiseaux. Laquelle? Bien, ce que vous redoutiez est accompli déjà. Madame de Champs d'Oiseau a parlé. Comment, mais quand ça? Ce matin? Mais alors que signifie cette promenade à nous trois, organisée aussitôt après un coup pareil? Mon mari n'a pas cru. Gabrielle affirmait seulement par signes. Elle n'attendait même pas ses paroles. « Ah, dit-elle, je comprends. Je devine ce que vous a dit mon mari. Il ne vous a soupçonné ni l'un ni l'autre. Il nous manifeste une confiance plus vive que jamais. Ah, je reconnais bien là son caractère. » Il eut un moment de silence. « Et vous vous étonnez, dit-elle, que je m'humilie, que je me jette aux pieds d'une jeune fille. Moi, la femme d'un homme comme celui-là, et qui le trahit, et qui traîne son nom, son honneur, dans la bave des marchandes de cancans et des portières. Mais je devrais me rouler par terre, n'importe où, demander pardon aux pierres même à qui je dois faire honte. Oh, mon Dieu, ayez pitié de moi. Voyez, dit-elle, je n'entends plus sa voix. Il nous a laissés, sûrs de moi et de vous. Il nous laissera la nuit, là, s'il croyait même m'être agréable. Il ne douterait pas un seul instant que sa femme, que la mère de son enfant ne soit digne de lui. Mais qu'est-ce que vous m'avez donc fait, vous? Mais quel homme êtes-vous donc pour avoir fait de moi ce que je suis à présent, et que je ne vous maudisse pas et ne vous crache pas à la figure? Ah, mon ami, voyez-vous, il faut nous séparer. Ce que nous faisons là est hideux. Mais nous ne pouvons pas nous séparer. Votre mari veut que l'éclat de son amitié pour moi étouffe les soupçons qui ont pu naître. Ne vous dois-je pas au moins à vous de me soumettre à ce désir? Mais c'est épouvantable, c'est inouï. C'est vrai ce que vous dites là? Mais non, voyons. Avouez que vous vous moquez de moi, que vous mentez. Avouez donc que vous êtes fou. Elle se tordait les mains. L'agitation de la journée et l'annonce de cette nouvelle calamité lui donnaient la fièvre. Gabrielle s'efforçait de l'empêcher de parler tout haut, car elle s'oubliait complètement. Et si l'obscurité épaisse était favorable à dissimuler ses mouvements, le silence de la nuit pouvait la trahir. Il lui mettait les mains sur la bouche, il la suppliait de se calmer. « Je suis perdue, dit-elle. À quoi bon prendre des ménagements désormais? Je n'oserais plus me retrouver en face de mon mari. J'aime mieux qu'il me voie et qu'il m'entende. Oh, ne vaut-il pas mieux qu'il sache la vérité? Lui, mais l'honneur, la probité, la noblesse même, le tromper, lui mentir ignoblement, goujatement, quoi, je me fais horreur, j'ai peur de moi. » Elle reprit sa respiration, puis elle dit « Mais je ne vous aime pas, je sens que je ne vous aime pas. Mais qu'est-ce que vous m'avez donc fait ?» Ce mot d'un seul coup le rendit ivre de douleur. Tout son être bondit. Il abaissa ses mains, qui lui tenaient appliquées sur la bouche, jusqu'à son cou dont la moiteur douce le fit frémir, et lui serrait le cou comme s'il allait l'étrangler. Elle suffoqua, rappelée à elle-même par cette brutalité. « Ah ! » dit-elle en retrouvant le souffle, « j'ai eu peur. Est-ce que vous avez voulu me tuer ? Oh, dites-le, dites-le, ce ne serait pas mal, vous auriez raison. C'est tout ce que je vaux, et vous me rendriez un fier service. » Moi, voyez-vous, je n'aurais pas le courage de me tuer moi-même. J'ai tant peur de la douleur. Vous savez, d'une simple égratignure, je suis si douillette. J'aime tant être bien. Ah, mais c'est parce que j'ai dit que je ne vous aimais pas. L'extrême émotion la faisait passer de la colère et de l'indignation à une subite douceur, à une sorte d'attendrissement sur sa propre personne, presque à des minauderies de chatte. Elle avait alors une réelle crainte de la mort, et tous ses sentiments, si confus, si divers, se représentaient en foule et presque simultanément. Elle était tour à tour emportée, abîmée par le remords, amollie par sa naturelle bonté, affolée par les mystérieux désirs de sa chair. Elle le regardait, il avait lâché prise, Il attendait fébrilement ce qu'elle oserait dire. Leurs yeux brillaient comme des lucioles dans la nuit. « Voyez-vous, » dit-elle après une longue hésitation, comme si elle suspendait ce qu'elle avait d'essentiel à dire, « il faut que vous épousiez cette petite. Oh, mais ne vous occupez pas de la famille. Est-ce que tout dans le monde ne vous montre pas le vulgaire lié au sublime? Elle est la femme qui vous convient, croyez-moi. Elle est délicate et fière, et elle vous aime éperdument. Et puis elle m'a piétiné, comprenez-vous? C'est de cela que vous vous souviendrez, et c'est cela qui l'élèvera dans votre esprit au-dessus de la malheureuse loque que j'étais. Vous vous souviendrez de l'attitude que j'ai tenue à ses pieds et qui vous a tant déplu. Alors vous rougirez de m'avoir seulement touché. Vous ferez bien, entendez-vous? Car je me suis donné à vous, je ne vous aimais pas. Non, non, je ne vous aimais pas. C'est lui que j'ai aimé et que je n'ai jamais cessé d'aimer. Hors de lui, mon Dieu, mais dites-moi quel infernal plaisir est-ce que j'ai donc aimé? Mais tu mens. Oh, je te tuerais pour oser dire cela. Mais non, je ne mens pas. Je n'ai jamais vu clair en moi, voilà tout. Je veux que tu sois heureux. Je te dis qui t'aime, je te fais voir comment on t'aime. Tu dois bien comprendre que je ne t'ai pas aimé, que je n'étais qu'une folle, moi. Quelque chose m'a fait tourner la tête. Quelque chose? Mais oui, je ne sais quoi. Ce n'est pas moi qui suis tombé dans tes bras. Il y a une espèce de folie qui est passée sur nous, qui m'a jeté par terre, qui a fait de moi cette loque que je te dis. Louisa, Louisa, oh, ne prends pas cette voix-là. Tu sais bien que c'est quand tu m'appelais comme cela. Oh, mon Dieu, prenez pitié des misérables choses que nous sommes. Il la tenait serrée dans ses bras, et toute la taille libre de la jeune femme devait en sentir la ceinture des muscles. Elle était forcée de voir ses yeux d'eau bleue qu'il avait tant de fois affolés, et les deux brisures lumineuses de la moustache dorée dont le chatouillement avait fait jaillir tant de nuits dans les jardins son beau rire éperlé. Elle était absolument anéantie. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait ni ce qu'elle disait. « Va-t'en, va-t'en, » lui jetait-elle. « Tu me fais une peur affreuse. Je ne t'aime pas. » « Tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, » disait-il en lui imposant ses baisers sur les yeux et sur les lèvres et en étreignant son corps de toutes ses forces décuplées par l'horreur et le désespoir. « Mais tu ne m'aimes pas, mais moi, je t'adore. » Mais moi, je me précipite dans la honte, dans l'ignominie la plus dégoûtante, parce que je t'aime, parce que je n'aime que toi. Je t'aime sous les yeux de Dieu, qui devrait nous faire mourir, sous les yeux de l'homme dont je souille l'amitié, dont j'empeste toute la vie, que je trahis comme un lâche, comme un chien. Mais je t'aime. Elle se débattait encore sous sa caresse victorieuse, et tout en répondant à ses baisers, on entendit dans une barque l'appel de M. Belvidéra qui les invitait à partir. À l'heure où la reine Marguerite avait apporté aux îles Borromée Dante Leona William Lee, son ami Gabriel Dompierre et la mystérieuse sirène, le même bateau ramenait aujourd'hui à Stresa le groupe agité des personnes que 7 à 8 semaines de villégiature avait formé autour de ses 3 premiers passagers. On était à la fin d'octobre. L'automne, autour des lacs italiens, étale à cette époque sa luxuriante magnificence, mais les journées déjà courtes devaient priver les voyageurs de la vue des jardins qui descendent en terrasse au flanc des collines, pareils à de gigantesques escaliers que les vignes vierges et les pampres teintent d'or, de rouille et de sang. Dès Luino, le point de départ, presque à l'extrémité septentrionale du lac, le vapeur avait allumé ses feux et filait en pleine nuit. les graves événements survenus pendant le séjour au lac de Côme laissaient peser un malaise qui alourdissait les conversations. Madame de Chantoiseau elle-même, comme si elle eût été touchée par quelques révélations inattendues, ou bien terrorisée par les conséquences de son bavardage, gardait à côté de Solveig, à peine rétablie, une figure chagrinée, chiffonnée. Dom Pierre et sa maîtresse traînaient la chaîne de leur liaison sous les yeux de M. Belvidéra. Le malheureux Lovely se ravalait chaque jour aux fonctions les plus méprisables et sa pauvre femme s'effaçait avec une résignation chrétienne. Et la petite Louisa était au désespoir de sentir une gêne nouvelle entre sa mère et son amie. Deux êtres seuls étaient étrangers à toutes ces misères et conservaient leur sérénité. Dante Leonard William, qui n'était préoccupé que d'achever un poème composé à Bellagio, et M. de Chantoiseau, qui ne soupçonnait rien au drame qui se jouait autour de lui, parlait à tort et à travers aux uns et aux autres, non sans commettre, bien entendu, nombre de ces gaffes monumentales qui sont l'apanage des gens, pour nous, d'un aussi heureux naturel. Quant à Carlotta, un changement profond s'était produit dans sa contenance, et grâce auquel, ce soir, au lieu de se trouver sur le banc des premières avec sa toilette arrogante, elle était assise modestement à l'avant, enveloppée dans son châle noir. Par suite du prolongement du séjour de Lee à Belgio, il s'était trouvé que la pauvre fille dépassait la durée de l'absence autorisée par sa famille sous le prétexte d'aller voir sa sœur à la Villa Cervelloni, ce qui compromettait le commerce des fleurs et devait inspirer de terribles inquiétudes à Paolo. De plus, le bruit de ses dépenses extraordinaires et de son succès de curiosité au lac de Côme était promptement parvenu, comme on le pense, jusqu'à l'Isola Bella et une lettre menaçante de sa mère, apostillée violemment de la main de son fiancé, lui avait intimé ce matin même l'ordre de regagner immédiatement la maison. Carlotta avait donc jugé à propos de mettre un terme à son éclat, et elle avait si peu paru durant le trajet de retour que plusieurs personnes ne l'avaient même pas aperçue. Ainsi, ce fut une surprise pour beaucoup lorsque, dans le temps que la reine Marguerite s'approchait de l'Aveno, le point extrême du commerce floral de Carlotta, on entendit soudain sa voix s'élever de l'avant du bateau. Comme un oiseau heureux de revoir l'arbre où son nid s'abrite, la belle fille, malgré ses préoccupations, chantait parce qu'elle se retrouvait sur l'eau et dans l'endroit où chaque soir elle conduisait sa barque et ses fleurs. Elle chanta, comme à l'ordinaire, la même chanson étrange, éclatante et douloureuse, aux paroles de mort et d'amour, et dont l'accent était tantôt celui de l'innocence, et tantôt celui d'une impudeur effrénée. Tout le monde frissonna. Ce chant, si beau par lui-même, était tellement inattendu et produisait dans la nuit, et par cette fuite du bateau au milieu du lac sombre, un effet si puissant qu'il n'y eut personne qui ne se tut pour écouter. Beaucoup se précipitèrent pour tâcher de distinguer la figure de celle qui chantait. Gabriel et Louisa se regardèrent et ils furent secoués l'un et l'autre jusqu'au plus profond de leur chair. Il semblait que ce ne fût qu'aujourd'hui qu'ils comprenaient l'extraordinaire vertu de ce rythme et de cette mélodie qui était la première chose qui les eût émus l'un en face de l'autre, le soir même de leur arrivée, lors de la rencontre de la barque fleurie. Il l'écoutait ce soir avec colère, avec terreur et avec une cruelle volupté. Ce n'était plus pour eux la voix d'une fille quelconque, ni telle chanson plus ou moins harmonieuse et touchante, mais c'était l'expression sensible de toutes les choses de ce pays et de ce ciel, coalisées en vue d'une fascination des créatures dont le but secret nous échappe. Est-ce que cette Carlotta, toute beauté et toute inconscience, n'était pas l'image merveilleuse du mystérieux génie qui gouvernait ici? Quand le bateau stoppa à l'Aveno, Carlotta ne s'était pas interrompue. Les gens du port, accoutumés à cette musique, cherchaient sa barque et sa cargaison. Comme on ne l'avait pas entendu depuis plusieurs jours, on se pressait aux abords de l'embarcadère et beaucoup applaudissaient à cet heureux retour de la marchande de fleurs. Combien de femmes, combien d'amants, combien de ces rêveurs solitaires que l'on voit promener sur ces rives leur spleen ou leur chagrin, avaient manqué ces jours derniers de cette jolie chanson du soir. Combien d'âmes animaient et charmaient, sans s'en douter, la belle enfant des îles, le gracieux génie ignorant de soi-même, et qui ne croyait répandre pour un peu d'or que des fleurs et d'innocentes paroles. Les bravos gagnaient, s'élargissaient, on accourait de toutes parts. Et lorsque le bateau vira en frôlant les jardins des villas emplis d'ombre, des voix d'enfants claires et joyeuses, et des voix plus mâles et émues venues de tout un monde invisible, prolongèrent les acclamations. Enfin, l'on quitta la rive pour gagner Pallanza en traversant le lac en sa largeur, et Carlotta ne chanta plus que pour la reine Marguerite. « Il faut convenir, dit Madame de Champdoiseau, que cette fille a un organe admirable, et quand elle se tient à sa place, on peut l'applaudir. »« Même lorsqu'elle se tient à sa place, prononça amèrement le révérend Lovelace, cette fille fait du mal. Cette musique, en vérité, fait du mal. » Plusieurs personnes sourirent. Dom Pierre se souvint qu'il n'avait pu s'empêcher d'en faire autant quand le clergéman, prenant son bain, il y avait de cela quelques semaines, lui avait dit « Ce pays est mauvais !» À voir ce soir le malheureux vieillard et lui-même et le triste accablement de son entourage, il ne jugeait plus que ses paroles de puritain fussent si ridicules. Cependant, il eût voulu prendre la défense de Carlotta, qui n'était mauvaise que dans le sens où l'on peut dire que l'est la nature, avec son soleil, avec ses nuits, avec le bruit de ses sources, l'odeur de ses moissons et le goût de ses fruits. Mais il s'aperçut qu'on l'épiait à cause du bruit de ses relations avec la marchande des Borromées, et que M. Belvidéra lui-même, si ce n'eût été sa discrétion naturelle, lui certainement félicité d'avoir choisi une maîtresse qui possédait une telle séduction. D'ailleurs, tout s'était sous le charme. Des femmes voulaient embrasser la chanteuse, et on envoyait des fillettes lui demander son nom. La traversée fut trop courte. « D'où est-elle? Où va-t-elle » interrogeait-on de tous côtés. On fut rassuré quand on sut qu'elle allait jusqu'à l'Isola Bella. On lui jetait de la monnaie qu'elle ramassait avec son avidité ordinaire. Et son humeur ayant profité de cet encouragement qui était le plus puissant sur elle, elle donnait toute sa voix, elle enflait son chant avec une frénésie vraiment nouvelle. Qu'éprouvait-elle en plus de la joie d'augmenter son trésor? Commençait-elle à comprendre l'espèce de royauté qu'elle exerçait sur ce lac et ses îles? Était-elle grisée ce soir par l'enchantement même qu'elle avait répandu autour d'elle? À un moment, elle mit un tel accent sauvage, une telle saveur fauve dans la passion que traduisait son refrain monotone, que nombre de personnes, et des hommes même, furent ébranlés jusqu'à cette petite angoisse courte qui vous loge une larme au coin de la paupière, et vous laisse hésitant, gêné, gauche, presque honteux d'avoir été touché si à vif. Alors elle se tut, et aucune insistance ne fut capable de la faire reprendre sa chanson. Elle était tapie sous son châle et se cachait la figure. Des hommes du bateau voulurent la découvrir et lui tirer son châle en riant. Mais elle leur lança des mots crus, qui leur firent comprendre qu'elle ne plaisantait pas. À la station de Pallanza, un homme qui se tenait sur le quai demanda à haute voix si Carlotta n'était pas à bord. « Carlotta, par la Madone, je crois bien qu'elle est à bord. »« Carlotta !» cria l'homme. Et ceux qui le connaissaient reconnurent le timbre du farouche Paolo. Carlotta, reprirent les hommes du bord, réponds donc, c'est-on promis. Carlotta restait immobile sous l'abri de son châle noir et ne soufflait pas. Elle grelottait comme s'il eût été prise de froid tout à coup. Ce n'était pourtant pas sa coutume d'avoir peur. Mais veux-tu répondre? Veux-tu répondre? Cria le premier, dont l'humeur ne semblait pas complaisante. Et il s'élança en bondissant sur la passerelle qu'on était sur le point de retirer. Le capitaine allait commander de l'avant. Arrêtez, arrêtez! Il y a encore un voyageur à descendre. Le bateau crachait de grands jets de vapeur. Tous les passagers, uniquement préoccupés de la Carlotta, étaient anxieux de la scène qui allait se passer entre le fiancé colère et brutal et la belle-fille qui s'aplatissait en tremblant à la façon des animaux qui présentent un malheur. Carlotta, hurlait Paolo, mais vas-tu bouger? J'ai là une barque qui t'attend et ta mère est avec moi. Nous allons passer directement à l'Isola Madre pour les fleurs. Non, dit Carlotta, qui se décida à desserrer les dents. Je vais jusqu'à l'Isola Bella. Ah, tu vas jusqu'à l'Isola Bella? Ah, chienne! Ah, coureuse! Je vais te faire voir, moi, si tu iras comme ça à ta fantaisie. Ah, tu ne veux pas quitter la société. Mais pourquoi aussi est-ce que tu ne fais pas enlever tout à fait par les étrangers? Dis! Le malheureux prononçait ce mot d'étranger, forestieri, avec toute la haine et tout le mépris dont il était capable. Il leur crachait la figure à tous dans l'impossibilité où il était d'atteindre celui qui détournait sa fiancée. Laissez-la, laissez-la, lui disait-on. Qu'est-ce que ça vous fait? Elle descendra plus loin, à l'Isola Bella. Mais il était furieux, il n'entendait rien, il culbutait tout le monde. Dans sa sourde jalousie, il croyait que les matelots le retenaient pour lui faire des galanteries. Il se jeta sur Carlotta et l'empoignant à bras-le-corps. Ce bout d'homme, plus petit, qu'elle emporta en un tour de main jusque sur le quai. Elle se débattait et hurlait. Personne de ceux qui savaient le caractère de Carlotta, son dédain ordinaire envers les menaces, ne comprenait cette frayeur subite à suivre Paolo, et sa mère, venue au-devant d'elle, pour la transporter en barque à l'Isola Madre. Les roues du vapeur battirent à grand bruit et étouffèrent les cris de la malheureuse Carlotta. Tout le monde demeura péniblement ému de cette brusque séparation. Le bateau s'était déjà éloigné de Pallanza, quand un des hommes de la reine Marguerite fit remarquer du doigt la petite barque filant vers l'Isola Madre et que l'on distinguait assez nettement grâce au feu de l'embarcadère. On se pressa sur l'arrière et l'on ne pouvait s'empêcher de demeurer les yeux fixés sur ce petit point noir, avec un regret, peut-être une inquiétude, une indéfinissable mélancolie.